Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je propose que nous entreprenions notre méditation à travers une lecture dans l'évangile de Luc, voilà, Luc chapitre 23, et nous allons faire donc nous allons parcourir ce texte à partir du verset 23, chapitre 23, verset 26, s'il vous plaît. Alors, comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et il dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici, des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles, qui n'ont point enfanté, les mamelles qui n'ont point allaité, alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ?» On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà, eh bien, nous allons entreprendre cette... Petit commentaire sur ce texte. Je prendrai tout d'abord, pour introduire ce passage, une parole de Pierre qui dit ceci. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » On la connaît, ça fait partie de ces paroles qui marquent « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il est bien entendu que nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, permettez-moi de le rappeler, ni par des œuvres méritoires, ni par la bonne conduite. Parce que le cas que nous allons prendre en considération ce soir, s'il fallait à ce brigand qui, in extremis, s'est tourné vers Jésus, eh bien une vie d'effort, des œuvres méritoires, ou tout simplement la bonne conduite, eh bien il aurait été exclu tout de suite. Je rappelle le principe de l'évangile. Nous sommes sauvés par la foi. Et cet homme qui va, rencontrer Jésus dans des circonstances que nous savons, crucifié à côté de Jésus, n'a d'autre chose et n'a d'autre possibilité, et doit son salut uniquement parce qu'il croit, uniquement parce qu'il fait confiance. Et à travers, probablement, marqué par un repentir sincère. Quelque chose qui se passe à ce moment-là dans son cœur et qui prend conscience que s'il ne passe pas par le pardon envers Dieu, il est perdu. Là est toute l'histoire, justement, de cet homme sur cette croix sur ce mont Golgotha. Qui pourrait mieux que ce récit d'écrire l'œuvre immédiate du salut d'une âme? Voilà. Il y a ce texte, ça a été consigné dans la Bible pour nous montrer que, eh bien, sans attendre ce dernier moment, cet ultime moment, mais que tout homme, toute âme qui se tourne et qui invoque le nom de Jésus, eh bien, peut être sauvé. Il y a cette parole également qui nous est laissée dans l'Écriture sainte. Il est dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », nous dit Jésus. Il a la vie éternelle, donc il est sauvé. Rien également ne peut mieux rendre que la scène de Jésus crucifié et entouré par ses deux brigands notoires et cette parole de Christ que nous avons rencontrée à plusieurs reprises dans l'Évangile, où il est dit ceci, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Assurément, Dieu ne prend pas finalement autre chose et ne vient pas chercher autre chose et autrement que des hommes qui désespèrent d'eux-mêmes, des hommes qui sont perdus. Sauver des bandits, ou si vous aimez mieux, sauver particulièrement dans ce cas, des condamnés à mort. Alors on va essayer de méditer sur le sujet. Je suis sauvé en croyant en Jésus-Christ. Je suis sauvé parce que je me suis repenti de mes fautes et de ma vie inutile jusqu'alors, parce que j'étais tout simplement condamné à mort. Je ne suis pas passé devant un tribunal. Je n'ai pas été jugé de la manière dont nous avons l'habitude. Mais néanmoins, il y a un tribunal à l'intérieur de chaque homme, c'est notre conscience. Et il y a des textes de loi, si vous permettez, puisqu'on parle de justice, qui parlent plus que d'autre chose, c'est le message de la Bible. Et particulièrement ce message de Jésus qui nous montre que la loi sera appliquée à la lettre inexorablement pour celui qui refuse de faire confiance à Dieu. Mais par contre, nous avons une multitude de propositions, d'invitations, de promesses qui nous sont laissées à travers le message de Jésus-Christ, le message du royaume de Dieu, où quiconque veut véritablement croire à ses promesses, alors à ce moment-là, on lui remet sa dette, il est sauvé tout simplement par la foi, mais par grâce. C'est ce que nous pourrions dire en introduction à notre méditation. On sait que dans ces textes que nous appelons les textes de la passion du Christ, Jésus a été conduit au supplice au cri de « Crucifie, crucifie-le ». C'était adressé à Pilate, ou encore « Une foule hurlante, haineuse, se met unanimement à dire « Il mérite la mort ». Donc, on considère Jésus comme un criminel. Mais la question qui vient tout de suite après, mais qu'a-t-il fait pour être crucifié? Et qu'a-t-il fait pour que l'on dise que des centaines de voix crient, hurlent, vocifèrent, il mérite la mort? En fait, de condamnation, il n'y avait pas que ces deux malfaiteurs liés sur leur croix qui méritaient la mort, mais tout autant la foule qui était autour. Et ça, ils ne le savaient pas. Tous ces gens bien mis, collés montés, bien pensants, religieux, eh bien, cette foule qui était avide de spectacles sanglants, ces grands, ces magistrats qui se moquaient, ces soldats également inconscients qui exécutaient les ordres, ils étaient exactement au même titre que les deux malfaiteurs qui étaient autour de Jésus. Ils méritaient tous la mort. On leur aurait peut-être dit, ils auraient dit, mais moi, je n'ai ni tué ni volé, comme ces brigands. Ils se seraient défendus en disant, mais nous sommes des braves gens, vous vous rendez compte? Nous allons au temple, nous fréquentons la synagogue, et loin de nous, finalement, d'être comme ces misérables qui sont là, pendus sur cette croix. Alors, à cet instant, éclate toute la monstruosité, permettez-moi de le dire, mais de la sottise humaine. C'est terrible. Parce que sur un innocent va tomber tout ce que comporte l'humanité de violence, les soldats, par exemple, de haine, le monde religieux qui hurle pour que Jésus soit exécuté, la méchanceté, parce qu'on prononcera de faux témoignages, on bâtira des mensonges pour faire condamner Jésus. La jalousie également, parce que Jésus était puissant en œuvre et en parole, alors les gens étaient jaloux, à cause de ses miracles, à cause de ses paroles. D'injustice, quand on voit que Barnabas, ou Barabbas plutôt, on en parle un peu moins, c'est pour ça que je fais la confusion, mais Barabbas, lui, le bandit, va être libéré et Jésus condamné. Et puis, monstruosité, sottise humaine, quand on voit la lâcheté de Pilate, qui lui va se laver les mains en disant « mais je n'ai rien à faire avec cet homme ». Voilà, ça, tout cela méritait véritablement d'avoir une croix sur le mont Golgotha. Alors, comment ne pas être révolté et appeler les foudres vengeresses du ciel? Parce que je crois que quelle position nous aurions pris si nous étions ce jour-là à Jérusalem, il y a 2000 ans, au moment où Jésus était sur la croix? Qu'est-ce que nous aurions fait? Oh, nous aurions réclamé la justice, peut-être. Or, c'est là précisément que l'Évangile prend toute sa signification à travers une parole que Jésus nous laisse dans Jean chapitre 12. Il dira, mais je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Oui. Mais pour sauver les hommes. Maintenant, reste à savoir si les hommes veulent être sauvés. Parce que c'est une question de volonté, de désir, d'aspiration. Et nous allons voir que parmi les deux qui sont de chaque côté de Jésus sur le mont Golgotha, il y en a un qui ne veut pas, et on va voir son comportement, et il y en a un qui désire. Et ça change tout. Parce que le salut de Dieu, il s'adresse à toute âme libre. Nous pouvons dire oui, nous pouvons dire non. Nous pouvons répondre d'une manière positive ou négative. Et ça, c'est finalement, ce que Jésus proclame. La liberté, le libre arbitre pour tout homme, toute femme. Jésus, sur ses bourreaux et ses persécuteurs, va prononcer les plus belles paroles d'amour qui soient, qu'aucun homme n'a jamais dit avant lui. Écoutez bien, on l'a lu tout à l'heure. Jésus dira devant tous, il s'adressera à son Père qui est dans les cieux, il dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Jésus a eu le courage d'accomplir les grands pratiques, les principes, pardon, qu'il était venu annoncer. Et ces grands principes, il les met en pratique. Vous vous souvenez qu'au début de son ministère terrestre, Jésus a donné un discours que l'on appelle le sermon sur la montagne. Et il va donner la démonstration, et c'était le moment de le faire, à tous. Et cela est venu jusqu'à nous, plus de 2000 ans après, quand Jésus disait « Bénissez vos ennemis, ne résistez pas aux méchants, priez pour ceux qui vous persécutent, et puis bien d'autres choses. » Alors, Jésus est en train d'en faire la démonstration. « Je te demande de leur pardonner parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et vous savez que nous sommes tous au bénéfice de cette prière encore aujourd'hui? Vous allez peut-être me répondre « Mais moi, je sais ce que je fais encore. Je sais bien quand je fais le bien et je sais bien quand je fais le mal. » Mais vis-à-vis de Dieu, comment Dieu appelle-t-il le bien et le mal? Quel est le juste bien? Qu'est-ce que, véritablement, le mal? À voir l'actualité de ces derniers jours, il y a probablement des gens qui ne savent plus ce que c'est que le bien et le mal. Au nom d'une religion? Au nom d'une défense, finalement, des principes au nom de Dieu? Alors, là, on peut en douter que les hommes savent ce qu'ils font. Donc, ils ne savent ce qu'ils font, non seulement pour ses ennemis du moment, mais pour la race humaine dans son ensemble. L'homme, dans sa nature profonde, nous dit la Bible, est déchu et mauvaise, elle est pervertie. Alors ça, c'est sûr que ça peut éventuellement courroucer et mettre en colère pas mal de gens. Oui, mais vous savez, avant que les choses se manifestent visiblement, elles sont déjà au fond du cœur, dans le tréfonds de l'âme et dans les pensées. Alors parfois, elles peuvent être contenues, mais même si elles sont contenues, elles sont là quand même à l'état embryonnaire, elles ne manquent peut-être que les conditions et le moment pour surgir. C'est pour ça que on ne sait jamais tout le mal qu'on peut faire quand on fait le mal. Et jusqu'où le mal pourra porter? les conséquences que cela peut avoir. C'est ça ce que Jésus veut nous dire. Chaque homme, pour sa part, même les meilleurs, a en lui-même la racine et les fruits du mal. C'est pourquoi Jésus est mort. Autrement, on pouvait certainement faire autrement, il y aurait eu probablement d'autres moyens, eh bien, de corriger peut-être une trajectoire déviante et d'amener les hommes, eh bien, à faire leur propre salut, mais ça ne pouvait pas être possible. Alors, Dieu a une idée très précise de ce qu'est le mal, mais il a une idée très précise de ce qu'est sa créature. À tel point que, par exemple, dans le psaume 14, vous vous en souviendrez, il nous est dit « Mais l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Pour nous montrer qu'il y a un refus obstiné de croire, que l'on appelle tout simplement l'incrédulité, et l'incrédulité est le premier péché de tous, finalement. Un peu plus loin, je crois, c'est dans les psaumes, il nous est dit qu'ils sont corrompus en parlant des hommes, ils ont commis des actions abominables, pour nous montrer que l'homme ne recule devant rien pour assouvir ses passions naturelles. Eh oui, il n'en est aucun qui fasse le bien. Même les meilleurs, comme nous l'avons dit il y a un instant, ont leurs défauts et leurs travers. Et peut-être pour corriger, pour masquer ses défauts et ses travers, eh bien l'homme se joue d'hypocrisie pour montrer peut-être le beau côté des choses. Mais comme nous le disions tout à l'heure, à l'intérieur, c'est peut-être justement, eh bien, là, empoisonné et toxique. Et le monde religieux du temps de Jésus s'est particulièrement singularisé à travers l'hypocrisie. L'hypocrisie est un péché. Un autre passage, il nous est dit que l'Éternel regarde du haut du ciel, il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Alors qu'est-ce que l'intelligence? Eh bien la Bible répond, à travers le livre des Proverbes et partout. Il nous est dit que la véritable intelligence n'est pas celle de notre raisonnement propre, de notre prétendue sagesse, mais c'est celle du cœur. Et c'est ça la véritable intelligence. Alors à ce moment-là, devant toutes les barricades, devant les forteresses et devant les murs que nous mettons devant nous pour nous protéger, on a du mal à se reconnaître coupable parce qu'on se justifie toujours. On dira « mais c'est la société, c'est l'autre, mais c'est pas moi ». C'est ça justement le problème. Qui cherche Dieu? Parce que c'est vrai que Dieu est souvent la dernière préoccupation des hommes parce qu'ils sont souvent animé ou habité par des ambitions matérielles, personnelles, et puis il y a quelque chose qui est aussi un péché de premier ordre, bien qu'ils soient tous pareils les péchés, et c'est l'orgueil. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors le bien que nous faisons, dans quel esprit nous le faisons? Je suis en train de démonter un petit peu le mécanisme là. Hein. Parce que nous pouvons faire le bien, mais si nous le faisons pour être vus, si nous le faisons pour finalement avoir des compliments et des applaudissements, ce n'est pas le bien, ce n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pas rechercher finalement, eh bien là, l'humilité et le désintéressement. Dans quel but le bien est-il fait par les hommes? Pour Dieu, ou dans l'espoir d'être récupéré, ou de se récupérer, ou de se justifier nous-mêmes, ou de compenser finalement quelques biens que nous pouvons faire contre tout le mal que nous commettons. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens, nous dit notre parole de l'Évangile. Tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a rien à dire. Et ils ne savent ce qu'ils font. Parce qu'ils sont tellement imprégnés finalement d'une chose qui est tellement humaine, naturelle, inhérente à leur nature, que finalement, eh bien, ils ne s'en aperçoivent plus. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a raison quand il nous dit ces choses. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Le malade qui s'ignore, donc son mal va l'emporter à un moment donné. Celui qui est près de mourir, le moribond, et qui ne sait pas que finalement il est si gravement malade, il ne va même pas avoir les réactions nécessaires. Parce que la réaction nécessaire devant la maladie mortelle du péché, c'est de se repentir. Et là, ça peut changer tout le cours de notre vie. Alors, je ferai une remarque à ceci pour aller un peu plus loin. Si l'humanité avait été aussi bien qu'elle le prétend, je voudrais quand même le préciser encore une fois de plus, Jésus aurait-il eu besoin de mourir sur la croix pour expier nos péchés? Puisque le cœur même de l'Évangile, tout converge vers le don de Dieu de son Fils, pour qu'il prenne à notre place la condamnation pour satisfaire la justice de Dieu. La croix, elle est partout dans la Bible. La croix, elle est partout dans notre monde. y compris même dans les cimetières, mais quand on est dans le cimetière, c'est trop tard. Donc c'est avant qu'il faut penser les choses. Et c'est pourquoi cette parole, elle nous est donnée, pour que nous puissions véritablement prendre toute la mesure de ce que Jésus nous dit. Il ne sait pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. C'est pour ça que il n'y a que l'Évangile qui peut donner la lumière et qui peut nous donner de réagir positivement. Parce que nous l'avons vu, Dieu ne veut pas notre condamnation, il veut notre salut, tout simplement. Il ne veut pas notre perdition, il veut que nous soyons des hommes sauvés et rachetés. Si l'on va plus loin, on s'aperçoit que, à cette heure tragique de l'histoire de notre monde, un innocent va payer pour des coupables. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi, 2000 ans après, on parle encore d'un homme qui est mort sur une croix, alors que tant d'autres, plus grands, humainement parlant, des conquérants, des rois, des princes, des empereurs, ont traversé le monde et on n'en parle plus. Mais comment se fait-il que dans le monde entier, en 2012, on parle encore d'un pauvre prédicateur sorti de cette terre de Galilée et qui a révolutionné le monde? Eh bien, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il est mort pour nous. Autrement, il y aura longtemps que tout ça, son souvenir, son histoire aurait disparu. Et on en parle, et ça subsiste encore. Alors on comprend que, parce qu'il est innocent et qu'il va payer pour les autres, ceux qui, en toute justice, méritent la mort, vont l'infliger à celui qui mérite la vie. Jésus méritait la vie, il est mort. Nous méritons la mort, et il nous a donné la vie, par la foi. Et il est appelé dans la Bible le prince de la vie. Il y en a un autre qui porte le nom contraire. Le diable porte le prince de la mort. Il est le prince de la mort, mais Jésus est le prince de la vie. Au-delà de cette criante injustice, la Bible nous apprend que Jésus s'est volontairement sacrifié pour les pécheurs dans Jean chapitre 10, à travers cette touchante parabole du bon berger. Écoutez ce que dit Jésus. Le Père m'aime, dira Jésus, parce que je donne ma vie. L'amour du Père pour le Fils, c'est que le Fils a donné volontairement sa vie afin de la reprendre. Personne, dira Jésus, ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Je donne ma vie pour mes brebis. Il est question du contexte du bon berger, naturellement. Dans Romains chapitre 5, versets 6 à 8, il nous est dit « Lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire des pécheurs, perdus, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Le juste est mort pour des injustes. » Et Paul poursuivra, il dira « Mais à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Jésus est venu prendre la place du plus obscur, du plus sale des hommes, du plus abject, du plus vil, du plus grand coupable. » Voilà. On pourrait peut-être donner sa vie pour quelqu'un qui mériterait qu'on le sauve. Mais il est venu sauver des gens qui n'étaient pas au point d'être aimés pour être finalement arrachés à la mort. Mais Dieu prouve son amour envers nous en continuant ce passage de Paul, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et tout cela parce que Dieu nous aime. Il nous aime tel que nous sommes, tel qu'il nous trouve aujourd'hui, dans notre état mental, dans notre état moral, dans notre état spirituel. C'est comme cela, tel que nous sommes. Et si vous attendez, si nous attendons d'être vraiment des super saints pour être sauvés, eh bien vous allez pouvoir attendre longtemps, parce que c'est précisément le contraire, où Dieu cherche des hommes qui sont véritablement, eh bien là, profondément perdus et désespérés. C'est ça la différence. C'est ça la différence. À la croix, l'humanité s'est scindée en deux catégories. Ouais. Alors on savait qu'il y avait un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ, ça c'est sûr, les livres d'histoire. Et pour tout homme qui croit, il y a un avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant sa conversion, et puis un après, c'est un homme nouveau, naturellement. Mais, je voudrais souligner quelque chose. Dans ce moment même où Jésus est élevé sur la croix, il y a, figurez-vous, devant nous, dans notre histoire, les perdus qui sont restés perdus, et il y a les perdus qui ont été sauvés. Il y a une petite nuance que je suis en train de faire, et il y a une raison. La première catégorie, c'est-à-dire les perdus qui restent perdus, représentée dans la personne du larron endurci, révolté et également dans la foule méprisante et qui invective Jésus. On l'entend, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu, eh bien voilà, qu'il le fasse. Ça, c'est les perdus qui restent perdus. Entêté, opiniâtre, obtus. Et puis, il y a les soldats aussi, qui, eux, se caractérisent par quelque chose. Et ils vont crier devant tous à Jésus, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et puis, il y a le malfaiteur injurieux. Il lui dira, en se tournant vers lui, puisqu'ils sont à la même hauteur, ils sont sur, finalement, le même niveau de croix, hein. Il dira ceci, cette parole, « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Là est toute l'expression de la haine parmi tous ces gens qui sont autour de la croix, de la révolte des hommes, incrédules contre Dieu. Il y a la moquerie, il y a la provocation, il y a les blasphèmes, il y a les accusations. Toute différente est l'attitude du supplicié à la droite de Jésus. C'est pas pareil. C'est le perdu qui, lui, va être sauvé. Alors que son complice accomplit ses dernières heures de vie dans l'endurcissement, lui, le deuxième, il est silencieux, il ne dit rien à un moment donné. Et subitement, il réfléchit. Et vous savez, il y a de quoi réfléchir que quand on y reste quelques heures à vivre. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir. C'est ultime. Le temps est compté. Et il réfléchit, cet homme. Peut-être voit-il le film de sa vie. Parce que s'il est brigand, s'il est appelé le brigand, s'il a été pris par les Romains et qu'il est crucifié devant la justice impériale de Rome, c'est parce qu'il a quand même fait quelque chose. Peut-être des crimes de sang, peut-être des vols, peut-être des choses abominables. Mais il sait qu'il va le mourir. Peut-être a-t-il fait mourir des dizaines de personnes. Mais lui, c'est son tour cette fois-ci. Alors il réfléchit, il se dit, mais quelle vie? Quelle vie j'ai pu avoir? Et il y a, fort heureusement à ses côtés, un homme qui s'appelle Jésus et un homme qui lui semble tellement étrange par rapport à tous les hommes qu'il a connus jusqu'ici. Ah oui, Jésus est étrange assurément. Et il faut qu'il pense vite, il faut qu'il réfléchisse vite. Parce que l'homme qui est à côté, qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est crucifié, on ne sait pas pourquoi, mais on l'a chargé de tout, pour pouvoir, eh bien, s'en débarrasser. Certes, étrange, cet homme, qui ne réplique pas aux insultes. Parce que Jésus ne répond pas. Étrange, cet homme, qui s'appelle Jésus, qui ne hurle pas son innocence à la face du monde, criant à l'erreur judiciaire. Étrange cet homme, qui ne profère ni imprécation, ni parole de vengeance, mais qui réclame le plus total pardon pour ses tortionnaires. Ah, ça c'est surprenant. Étrange aussi cet homme, qui ne se plaint pas, ni ne gémit lorsque les clous pénètrent dans sa chair. Pas un mot. Alors, ce brigand se souvient-il tout à coup de Jésus de Nazareth? Avait-il entendu parler? Parce que Jésus était connu depuis 3 années qu'il passait d'un endroit à un autre, en Palestine, en Israël, celui qui parcourait tout le pays et qui guérissait les malades, celui qui annonçait des paroles révolutionnaires, qui enthousiasmait ceux qui avaient finalement au fond de leur cœur le besoin, l'amour et l'esprit de vérité, mais qui rendait furieux ceux qui ne voulaient pas entendre, naturellement. Mais aussi ne pardonnait-il pas les péchés avec la promesse d'une vie meilleure? Il pense à tout ça, notre brigand sur la croix. Cet homme qui promettait un autre monde, et lui, ce brigand, allait passer de ce monde-là, sordide, avec une vie épouvantable, misérable, une médiocrité d'existence, il savait qu'il y avait probablement encore une autre vie de l'autre côté, et il voulait en faire partie. Et il avait entendu Jésus, probablement. Soit il l'avait entendu directement de la bouche de Jésus, ou alors, il l'avait entendu par les autres. Mais bientôt, il va l'entendre de la bouche même de Jésus. Et pour lui, personnellement. Au point où en était ce malheureux, à l'ultime instant, il réalise qu'il a besoin d'une chose. Une chose qui jusqu'alors l'a laissé indifférent, une chose que, il le sait, Jésus seul peut lui donner. Il n'y a que ce prédicateur, ce prophète de Nazareth qui peut lui donner. Il en est convaincu à l'intérieur de lui-même. C'est peut-être l'imminence de la mort qui lui donne de penser comme ça. Et il se dit, mais il y a quelque chose. Est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il sait que Jésus peut lui donner? S'il le lui demande, c'est le pardon de ses péchés avant de mourir. C'est ça. le pardon de ses péchés. On ne peut être sauvé que lorsque l'on croit en Jésus-Christ, que l'on se soit repenti de nos fautes, et qu'à ce moment-là, on ait reçu, on ait confessé nos péchés, et on ait reçu le pardon de Dieu. Et alors, à ce moment-là, on peut partir en paix. Vous savez, il y a trop d'hommes et de femmes qui vivent une vie épouvantable parce qu'ils refusent d'accepter le pardon ou de donner le pardon. Et ça va les traîner toute leur vie jusqu'à la fin et par-delà peut-être même là la mort. Parce que quand on est coupable, quand on est culpabilisé pour de vraies raisons et qu'à ce moment-là on se plie soit vers les humains pour leur demander pardon quand on leur a fait du mal, ou soit vers Dieu, ça c'est le nec plus ultra naturellement, alors à ce moment-là, il y a comme un déchargement sur nos épaules, notre conscience, c'est comme si on était libéré d'un fardeau énorme, une montagne, et on se sent libre à ce moment-là. Et vous savez, le pardon, il est toujours accompagné de deux choses, c'est la paix et la joie. Et cet homme, il sait qu'il va mourir, et il a besoin de vivre cette paix et cette joie en passant par le pardon, et il sait qu'il n'y a que Jésus. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Il s'est dit, mais c'est pour moi ça. C'est pour moi. Mourir, oui, il sait qu'il va mourir, mais mourir pardonné et mourir sauvé. C'est toute l'histoire. Alors que va-t-il faire? Et que va-t-il se passer? D'abord, dans son cœur, il y a la crainte de Dieu qui va naître. À son compagnon qui est en train d'injurier Jésus, et qui injurie aussi certainement la foule, il va se tourner, cet homme qui est en train de réfléchir à son salut, il se tournera vers son compagnon de condamnation, il lui dira, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? La crainte de Dieu est la porte d'entrée de la repentance et de la foi qui sauve. On voit dans quel monde nous sommes aujourd'hui, les gens ne craignent rien du tout. Ils ne craignent pas Dieu. De voir leur comportement, de voir les blasphèmes, de voir les jurons, de voir les imprécations, d'entendre tout cela, on se dit, mais les gens ne craignent rien. Ni sur la terre, ni dans le ciel. Alors, est-ce que nous pouvons nous permettre tout simplement de défier et de nous moquer jusqu'au bout? Parce que ça sera toujours Dieu qui aura raison en finale. Ça, il faut le savoir. Alors, il ajoutera ceci à l'adresse de son compagnon révolté. Il dira, mais pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il confesse la justice. Lui qui était un brigand, donc baigné et plongé dans l'injustice. Il dira, mais c'est justice. Et vous savez, quand quelqu'un commence à prendre en considération ce qu'est la justice, et qui se l'applique à lui-même en disant, au lieu de trouver des excuses, au lieu de trouver des parades et toutes sortes de prétextes, en disant, eh bien, ce n'est pas moi, ce n'est jamais moi, de dire, eh bien, finalement, ce qui m'arrive, je l'ai bien mérité. Alors à ce moment-là, vous savez, ça change tout le cours des choses. Parce que ces hommes étaient certainement des meurtriers, des assassins, et c'était que la justice de se retrouver sur cette croix, naturellement. Le deuxième pas après la crainte de Dieu sur le chemin du salut, c'est reconnaître notre culpabilité. Voilà, tout simplement. Le vrai repentir ne cherche pas d'excuses. Il s'accuse. C'est pas les autres, c'est pas la société, c'est pas celui-ci ou celle-là, mais c'est moi. Il reconnaît les choses en face, tout simplement. Et il dit, mémorablement, comme nous l'avons entendu après la faute de David, le roi David, quand le prophète vient lui dire, eh bien, tu es cet homme-là, David, il va pas chercher d'excuses. Il va dire, mais je suis coupable, tout simplement. J'ai péché, je suis coupable. Il va pas chercher de faux fuyants, de toutes sortes de chemins, là, pour échapper à la réalité. Pourtant, le brigand avait certainement des circonstances qui faisaient qu'il était comme il était. Et on peut parler d'un réveil de conscience à ce moment-là. Vous savez, ce qui nous réveille dans notre conscience, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le message que nous partageons ce soir a pour office de nous amener, pour ceux qui en auraient besoin, pour ceux qui en ont besoin, à un réveil de conscience. Souvent, la vie nous a amenés, eh bien, à trouver toutes sortes d'excuses, toutes sortes de choses, et pour nous endormir dans notre conscience. Le troisième pas va être franchi. À ce moment-là, cet homme, qui ne peut pas faire beaucoup de gestes, mais néanmoins il peut encore tourner la tête. Alors, il se tourne vers Jésus et il implore une chose dont tous les hommes ont besoin, c'est la grâce. Ouais, la grâce de Dieu. Vous savez ce que c'est que la grâce? Eh bien, la définition, c'est faire miséricorde à celui qui mérite d'être puni. Dans le dictionnaire, c'est comme ça. Ouais. C'est ça. Normalement, la punition me revient parce que j'ai commis ceci et cela. Mais la grâce, c'est de me renvoyer libre. Ou sur mon billet de sortie, il y a marqué « acquitté ». Ouais. Comme si tout avait disparu, tout a disparu. Alors il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Une question, une simple prière. Il ne réclame pas une délivrance temporelle pour recommencer sa misérable existence en disant, « Seigneur, toi, j'ai entendu que tu faisais des miracles, tu ressuscitais même les morts. Alors fais tomber les clous qui sont dans mes mains. Fais-moi descendre de la croix et puis je m'enfuis. Je peux pas l'éviter, hein. Ça va rester gravé là jusqu'au bout, hein. Voilà. Alors, pardonnez-moi. Bon, ça va se passer. Ça va revenir dans le bon sens, naturellement. Et nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, c'est pas pour recommencer sa vie qu'il a menée. Parce qu'il le sait, il a gâché sa vie. Et, en tous les cas, il ne veut pas perdre son éternité. Il a raison, hein. Souviens-toi de moi dans ton règne. Jésus est pour lui le Fils de Dieu, le Sauveur et le Seigneur. Il en a la conviction maintenant. Et il confesse la royauté de Jésus parce qu'il parlera de son règne. Un règne, c'est fait pour un roi. Un roi, c'est un royaume. Et le roi règne dans son royaume. Donc il croyait que Jésus, le Messie d'Israël, eh bien était un roi. Le roi, non seulement d'Israël, mais le roi de toute la terre. Et le roi de la terre, mais le roi du ciel. Alors, que ton règne vienne. La conclusion à ce message ce soir, elle sera la suivante. Jésus a refusé de répondre à Pilate et à Hérode, mais il répond à cet homme qui est un brigand notoire. Vous vous rendez compte? Pilate, le procurateur impérial. Hérode, le roi de Palestine, le roi d'Israël. Roitelé s'il en est. Et par contre, il va répondre à ce misérable qui est sur la croix. S'il y a quelqu'un auquel on n'aurait peut-être pas répondu, compte tenu finalement eh bien de la noirceur de sa vie, c'était peut-être lui. Et pourtant, Jésus répond à celui-là et il ne répond pas aux autres. Ah, c'est quelque chose. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, sache que c'est une certitude absolue. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quel privilège immense pour un misérable de s'entendre dire « Tu seras avec moi. » Tu seras avec moi. Tu es sauvé. Parce que être avec Jésus, c'est être sauvé. Être avec Jésus, c'est être pardonné. C'est de partager la vie éternelle. C'est de vivre désormais après la mort. Eh bien, dans ce bonheur, dans cette félicité à jamais, tout simplement. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais peut-être une dernière question, mais qu'est-ce qu'il a fait pour aller au ciel, celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Des bonnes œuvres? Bon, on sait, on en a parlé. Quelle qualité humaine avait-il? Était-ce un homme de bien? Alors, à ces trois questions, on répond, mais nullement. Au contraire, il n'y avait rien à tirer de cet homme. Et pourtant, Jésus lui donne ces paroles d'espérance pour l'éternité. Nous sommes sauvés uniquement par grâce et par la foi. Je le dis et je le redirai jusqu'au mon dernier souffle, parce que ça, c'est la mission, finalement, de celui qui prêche l'Évangile. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, tout simplement. Et cet homme a été sauvé uniquement parce qu'il croyait à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Tout simplement. Le salut est un don de Dieu, c'est un cadeau. Vous aimez recevoir un cadeau? Alors on croirait que le monde n'aime pas recevoir les cadeaux. Vous faites un cadeau à quelqu'un, je vais vous faire un petit cadeau. Les gens se méfient en disant, attention, il y a un cadeau, mais il y a quelque chose derrière. Hein. Non, le cadeau de Dieu, c'est gratuit. Hein. Tout est gratuit. Et nous n'avons aucune crainte à accepter. Alors, c'est peut-être pas avec notre main que nous allons saisir ce cadeau, mais c'est en ouvrant notre cœur. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Don de Dieu pour quiconque se repent, confesse et abandonne ses péchés, et reconnaît en Jésus son sauveur personnel. C'est pas le sauveur de l'autre. L'autre, il n'en a pas voulu de Jésus. Il va mourir dans ses péchés, il va mourir dans sa misère, il va mourir perdu. Mais celui-ci, c'est tout à fait différent. Le brigand n'a vu que l'humiliation de son sauveur. Il a vu combien cet homme qui s'appelle Jésus de Nazareth a été maltraité, a été honni, a été battu, a été cloué, a été frappé, a été injurié. Il n'a vu que ça, il a vu que son humiliation. Qu'on suive un homme de gloire, un homme qui brille, un homme qui rayonne, on se dit c'est sécurisant. Mais un homme comme lui qui va mourir et qui est complètement défiguré, qui est dépouillé, alors on n'a pas forcément envie de le suivre. Mais le brigand, lui, a vu que l'humiliation de son sauveur, et il va entrer dans sa grâce, dans sa gloire, après la croix viendra la couronne. Oui, il y a une couronne sur la tête de Jésus, mais c'est la couronne de l'humiliation. Mais la Bible nous dit que Jésus porte aujourd'hui, avec sa résurrection, avec tout ce que nous savons maintenant de son règne dans le ciel, eh bien, il porte une couronne, qui n'est plus une couronne d'épines, mais une couronne de gloire. La félicité, la joie, le bonheur éternel, aujourd'hui tu seras. Alors quelle est cette idée saugrenue où des hommes ont inventé le purgatoire? Alors là, je peux vous dire que c'est le texte imparable devant les doctrines, les fausses doctrines inventées par les religions. Le purgatoire n'existe pas. Peut-être une affaire commerciale pour gagner de l'argent? Certainement. Mais là, ça devient, comment pourrait-on dire, de la simonie. Vous connaissez Simon le magicien? Chapitre 8, Actes des apôtres. Ça, c'est véritablement un outrage fait à Dieu. Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention des hommes. Et s'il en est un qui aurait dû y aller pour un certain temps, un bon bout de temps, à défaut d'y aller directement en enfer, eh bien, c'était bien le brigand dont nous avons parlé. C'est bien celui-ci. Parce que il aurait pu y passer des siècles et des siècles pour expier ses fautes, se racheter et essayer de réparer. Et pourtant Jésus lui dit, ces paroles sur laquelle on va terminer, aujourd'hui même, quiconque, finalement, invoque le nom du Seigneur sera sauvé. On en revient à ce que nous avons commencé. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle. Dieu t'appelle. Dans la mesure où tu prêtes une attention particulière et que là, la parole de Dieu fait son œuvre, illuminée par l'action de du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre âme, dans notre pensée. Alors à ce moment-là, il n'y a qu'une chose à faire. Si Dieu nous appelle, quand quelqu'un nous appelle, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous répondons. Et on a encore le choix de répondre d'une manière ou d'une autre. Mais en tous les cas, nous voyons que cette humanité, elle est scindée en deux. Il y a celui qui répond et qui est sauvé à l'instant même. Et puis il y a celui qui refuse et qui va finalement eh bien, aller au bout de la condamnation et qui atteindra finalement sa mort, mais sa mort éternelle. L'un, c'est la destination à jamais de l'éternité, dans le salut, et puis l'autre, eh bien, comme nous l'avons dit il y a un instant, parce que l'un a répondu avec ce qu'il a demandé, et Dieu exauce, et puis l'autre n'avait que dans sa bouche et dans son cœur surtout que des pensées de révolte, et c'est pas dans la révolte que nous sommes sauvés, c'est dans l'humilité. Et on peut peut-être penser que ce brigand sauvé, eh bien, correspond peut-être à cette parole que nous avons dans l'épître de Jacques, dans la lettre de Jacques, où il nous est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras sauvé. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que le salut, c'est simple. Oui, il n'y a rien de compliqué. C'est tout simplement, Seigneur, un mouvement du cœur, un mouvement de la conscience, au tréfonds de notre personne, dans notre âme, où là, à ce moment-là, eh bien, nous savons bien ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous savons bien, Seigneur, ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Nous savons bien, Seigneur, où est la vie et où est la mort. Parce que nous sommes, finalement, eh bien, dans ces conditions de vie. Nous vivons aujourd'hui, mais nous savons, Seigneur, que d'une manière inexorable, chaque homme va mourir. Mais Seigneur, est-ce que nous voulons mourir sauvés ou mourir perdus? Ça, telle est la question, et cette question, nous voulons vraiment y répondre. Alors Seigneur, Tu bénis mes amis, tu leur fais grâce, tu les aides, Seigneur, à prendre position pour Jésus. Parce que nous savons, Seigneur, que la chose qui va demeurer et la chose qui restera jusque dans l'éternité, c'est que Jésus a donné sa vie pour moi. Et à travers, Seigneur, eh bien là, la reconnaissance de mes fautes, la confession de mes fautes, l'abandon de mes fautes, eh bien, je suis venu vers toi et j'ai entendu ton pardon. Je l'ai reçu, je l'ai cru, Seigneur. Et aujourd'hui, je peux dire que Jésus m'a sauvé. Et nous te remercions et nous te bénissons. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chaque homme, chaque femme, pour chaque auditeur. Merci pour ta grâce. Merci, Jésus, parce que c'est aujourd'hui que tu sauves.